Europe 1. Europe 1. Christophe Ondelatte.
L'histoire d'aujourd'hui est avant tout une histoire humaine très forte. L'histoire d'une adolescente de 16 ans, Mila, harcelée sur les réseaux sociaux au point qu'elle doit se cacher. Mais c'est aussi une histoire politique, car ce qui a jeté Mila dans la tourmente, c'est une phrase prononcée sur le réseau social Instagram, « Le Coran, votre religion, c'est de la merde ». Mila raconte toute cette histoire dans un livre qui paraît chez Grasset, « Je suis le prix de votre liberté ». J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Crève, sale pute! Quand je vais trouver ton adresse, je vais venir t'égorger de mes propres mains. Tu vas bouffer tes entrailles! Et celles de ta mère, sale chienne! On va rigoler quand je vais venir te violer. Tu vas implorer Dieu. Tu vas sentir ma grosse bite te sortir par les yeux. Connasse! Pitasse, poufiasse! J'ai hâte que tu meurs. Je veux t'entendre couiner comme une truie. Et tu vois mon couteau? Bon, tu vas le sentir sous la gorge. Je vais te découper. Et quand tu seras morte, je vais te violer, sale lesbienne. Ta mère, elle va se la prendre dans le cul. On va tous lui passer dessus. On va te brûler à l'acide, d'abord le visage et puis les seins. On va te retrouver. Hein. On va te tuer. Tu vas souffrir avant de mourir. C'est qu'une question de temps avant qu'on te retrouve. Je m'appelle Mila. Je suis majeur depuis peu. Pour avoir, dit-on, insulté l'islam, je suis menacé de viol et de mort depuis mes 16 ans. Je suis votre fille, votre nièce, votre cousine, votre amie au collège, celle que vous détestez, une sale gamine mal élevée, votre ennemi juré. Mais en vérité, je suis une adolescente comme une autre qui se retrouve à porter sur ses épaules le combat qu'un pays entier devrait mener, celui de la liberté d'expression. Je me retrouve abandonné par une nation fragile et lâche. Alors il faut que je vous raconte ce que ça fait d'avoir 17 ans et de recevoir chaque jour des messages qui me promettent les tourments d'une mort violente. Il faut que je vous raconte ce que ça fait de ne plus être libre, ce que ça fait d'être incarcéré chez soi, avec la menace qui rôde. Pourtant, j'ai eu une enfance des plus banales. Je suis né en région parisienne et ensuite j'ai grandi à la campagne, en Isère. Une gamine un peu turbulente, tête en l'air, agitée à l'école avec un bon petit caractère, mais plutôt bon élève. Avec du mal néanmoins à se concentrer en classe et aussi chez moi. Très tôt, ma mère se pose des questions. Et vers mes 12 ans, il y a quelque chose qui va pas. Il faut qu'elle voie quelqu'un, c'est pas normal. Pendant plus de 2 ans, elle me fait consulter des psychologues et des pédopsychiatres. Et ils ne m'aident pas vraiment. Je pense que son problème se réglera tout seul. Hein. Il faut être patient. Ça viendra au fil des années. J'ai finalement été diagnostiqué en octobre 2016. Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Enfin des mots sur mon mal. Une délivrance. En 2018, j'entre au lycée, un lycée privé. Je m'habille court, mon style est atypique, j'ai des goûts musicaux différents des autres, personne ne veut traîner ni être vu avec moi. Et j'ai entendu dire qu'elle se prostituait, et aussi qu'elle prenait de la drogue tout le temps. Moi, je pense que c'est une fausse blonde. Et t'as vu? Je crois qu'elle s'est fait refaire les fesses. Rapidement, je deviens la fille solitaire qui sèche les cours pour fumer, pour écouter de la musique à un arrêt de bus. Je bats le record d'heures de colle. Je n'y vais presque jamais. Cette année-là, l'unique module qui m'intéresse, c'est celui de littérature et société. Un atelier plus qu'un cours. Un jour, la professeure, une petite dame d'un certain âge, vient me parler à la fin de son cours. Je t'avoue que je suis un peu inquiète, Mila. Beaucoup de professeurs disent que tu t'endors en cours et que tu t'isoles du reste de la classe. Cela dit, moi j'ai remarqué que c'était pas le cas avec moi. Dis-moi, Mila, qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te passionne? La chanson? Le chant, depuis toute petite, je rêve d'être chanteuse. Et puis j'aime bien l'écriture aussi. Et pourquoi tu n'écrirais pas tes chansons? Je passe l'après-midi même dans un parc, avec un cahier et un stylo. Ma première chanson naît ce jour-là. Le texte est sombre, mais moi je le trouve beau. Je suis fier de moi. C'est en sixième que je découvre Instagram. Je trouve ça fascinant. Et surtout très inspirant. Des filles de mon âge qui se prennent en selfie avec des filtres censés les embellir, qui font des bouches en cul de poule et qui se filment en playback sur des chansons de Jules. Alors je m'y mets. Moi aussi. Et c'est là que je commence à me maquiller, à poster mes photos. Et je deviens accro. Je connais ma première expérience de harcèlement en sixième. Et tu veux faire quoi, toi, Mila, plus tard? Ben, je veux être actrice ou chanteuse connue. Je rêve de jouer dans un film. Les filles racontent ça sur les réseaux sociaux et les élèves se mettent à s'attrouper autour de moi dans la cour. Ils m'insultent et ils me crachent dessus. Hé, Mila, quand tu joueras un film, tu feras le rôle de la prostituée, hein? Et puis je poste une première vidéo sur YouTube où je fais la conne devant la caméra. Une scénette où je parle des clichés sur les blondes, de l'autodérision. Rapidement, j'ai 2000 ou 3000 vues, dont beaucoup de gens de mon collège. Et une dizaine de commentaires haineux. Suicide-toi! Tes vidéos, c'est de la merde. Et ça remonte jusqu'à mon compte Instagram. Et je pleure. Ça me fait mal. Mais je continue. Voilà comment je deviens la fille à suivre. Quand je redouble ma seconde, je rencontre une fille. Au début, on est de très bonnes amies. Et puis une nuit, elle m'embrasse et elle m'avoue ses sentiments. Je dis oui pour ne pas lui faire de la peine, pour ne pas la perdre. Mais je ne ressens rien. Et puis je commence à l'aimer. Vraiment, je savais pas que c'était possible. Du coup, à chaque fois qu'on passe devant le lycée, en nous tenant la main, on se fait traiter de sales lesbiennes.
Ah voilà les lesbiennes, là! Eh, faut plus que tu te montres avec ta copine, hein. C'est haram.
Le samedi 18 janvier 2020, je poste une vidéo en direct sur Instagram. La vingtaine d'abonnés présents à ce moment-là écrivent des commentaires. Et l'un se met à me draguer, lourdement. Quel est ton genre de fille? T'as une préférence pour les blanches, les arabes, les noirs? Je réponds que les arabes et les noirs ne sont pas spécialement mon genre. Un garçon qui m'a dragué quelques minutes plus tôt commence à me traiter de raciste. Je finis par couper la vidéo en direct. Quand je me reconnecte quelques minutes plus tard, je découvre une dizaine de messages qui me menacent de mort et de viol. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je me remets sur Instagram et je fais une courte vidéo en story pour exprimer mon dégoût.
Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir.
Je m'attends à ce que quelques internautes soient agacés. Mais c'est une mère qui se lève. Et puis la vague se déchaîne. La vidéo est partagée sur tous les réseaux sociaux. Et puis la vague se fracasse. Des menaces de mort arrivent par milliers. Alors je descends dans le salon pour raconter ça à mes parents.
« Ça va passer, ma chérie. Il faut pas que tu prennes ces menaces à cœur. »
Plus tard dans la journée, ma mère est en train de peindre les volets.
« C'est grave, maman. Il faut m'emmener à la gendarmerie pour déposer une plainte. Je t'en supplie. Écoute, il faut que je finisse de peindre les volets. »
Mais quand je lui montre les menaces de mort, de viol et de brûlure à l'acide, par des personnes de mon lycée, elle accepte de m'y conduire. La gendarme qui prend ma plainte ne prend pas cette histoire de harcèlement au sérieux. Je reçois des dizaines d'appels et une bonne centaine de messages à la minute. Je suis devenu une bête de foire, médiatique et virtuelle. Dans les médias et sur Twitter, on ne parle plus que de moi. Une fille de mon lycée, avec qui je m'entendais bien, lance une discussion.
J'ai hâte que Mila se suicide lundi.
Ma mère lui envoie ce message.
Bonjour Laura. Je suis la maman de Mila. Ça s'appelle de l'incitation au harcèlement et au suicide. Prends-tu plaisir à mettre la vie de Mila en danger ?
Nous avons porté plainte. Laura a été convoquée à la gendarmerie, mais elle n'a pas été sanctionnée. Et de toute façon, elle n'est pas la seule de mon lycée à me harceler.
Reviens pas, Mila. On va te mettre en sang. Sale pute, si tu reviens lundi, tu vas mourir.
Pourtant, dans ma classe, nous étions amis et complices. Je m'amusais bien avec eux. Mon ex-copine, avec qui je suis resté en bons termes, ne fait preuve d'aucune compassion.
T'as pas le droit de dire ce que t'as dit. Tu mérites ce qui t'arrive. Et tu mérites bien plus que ça.
Je l'ai aimée, cette fille. La lire me fait énormément souffrir. Mon premier amour me tourne le dos dans un acte de lâcheté ultime. Lundi 20 janvier, quelqu'un qui s'est fait passer pour mon père a téléphoné à la proviseure dès la première heure.
Elle sera là aujourd'hui, hein ? Elle va venir en cours normalement.
Le lycée a appelé la gendarmerie pour m'escorter, me protéger de la foule des élèves qui s'accumulent devant le portail. Et quelques jours plus tard, la rumeur court que je suis dans le bureau de la vie scolaire. Une horde d'élèves déboule en crachant partout.
Et elle est où, Mila ? Si on la trouve, on va la décapiter, hein ? Parole !
Je me demande si je serais encore vivante, si j'étais vraiment retournée dans mon lycée. Je peux dire adieu à ma vie d'avant. J'ai basculé dans un cauchemar éveillé. J'ai appris qu'une influenceuse féministe qui s'appelle Solveig Minéo me défend publiquement sur Twitter et qu'elle cherche à me contacter. Alors je lui envoie un message privé pour la remercier. Et puis je discute longuement avec elle par message et par téléphone. Elle me pose des questions. Je lui explique. Elle reprend mes paroles à la lettre. C'est elle qui lance sur Twitter le hashtag « Je suis Mila ». Et le soir même, j'ai la joie de découvrir que « Je suis Mila » a pris une grande ampleur sur les réseaux sociaux. Des gens me soutiennent. Ils postent des messages bienveillants. Ça me fait un bien fou. Je me sens apaisé. Je ne sais pas à ce moment-là que Solveig Minéo a des affinités avec l'extrême droite. Comment gérer cette pression ? Je suis dépassé. J'ai dû changer de couleur de cheveux pour qu'on ne puisse pas me reconnaître. Je suis passé d'un violet clair à un châtain foncé. Et j'ai commandé des vêtements sur Internet dans un style différent. Je suis sollicité par beaucoup de chaînes de télé et de journaux. J'ai pris la décision avec mes parents et mon avocat de ne m'exprimer qu'une seule et unique fois, à la télé, dans l'émission quotidien que mon père regarde depuis toujours.
C'est ça, le droit au blasphème. Et j'ai pas à me cacher pour cette raison, j'ai pas à m'arrêter de vivre pour ça. Mais je tiens quand même à te dire que quelque part, je m'excuse un petit peu pour les personnes que j'ai pu blesser qui pratiquent leur religion en paix.
En coulisses, on m'a dit de dire ça mot pour mot. Je l'ai répété, bêtement. Mais je ne pense pas un traître mot de cette déclaration. Je n'ai pas d'excuses à formuler. Je ne m'excuserai jamais. La vidéo fait 12 millions de vues sur Twitter. Et les polémiques ne font que redoubler. J'ai fermé mes réseaux sociaux. Je suis condamné à vivre caché et protégé par les forces de l'ordre. Je dois aussi changer de lycée. J'ai l'impression d'être puni. Et je peux m'absenter d'Internet pendant des mois, hein. Mes détracteurs ne m'oublient pas. Ceux qui me disent que je n'ai qu'à disparaître des réseaux et me cacher sont les mêmes que ceux qui me cherchent continuellement, où que je sois. Après un long mois de déscolarisation, le ministère de l'Éducation nationale a finalement trouvé un lycée dans lequel je pourrais étudier. Un internat militaire. Il faut quand même que tu réalises la chance que tu as d'être dans ce lycée. Aucun autre établissement n'acceptera de t'accueillir. Ici, tu passeras ton bac en sécurité. On m'a raconté qu'avant mon arrivée, le personnel est passé dans toutes les classes. Bien. Mila va s'installer chez nous. Et je vous demande de ne le dire à personne autre que ceux qui sont dans ce lycée. C'est bien compris ? Personne. Autre chose. Vous ne lui posez pas de questions et vous ne faites aucune allusion à l'affaire. C'est entendu ? Et moi, quand j'arrive dans ce lycée, on m'explique que je n'aurai jamais quartier libre le mercredi après-midi et le week-end. Je n'aurai pas non plus accès aux réseaux sociaux. J'ai droit à une chambre individuelle, mais elle est surveillée jour et nuit par un militaire qui dort dans la chambre d'à côté. Bienvenue dans ma nouvelle prison. À la fin du premier mois de confinement, je décide d'ouvrir un nouveau compte Instagram pour poster des vidéos dans lesquelles je chante et des dessins et des maquillages. Et là, le nombre de mes abonnés se met à augmenter. Je commence à recevoir à nouveau des messages haineux. Et le pire, c'est que je m'y suis habitué. Je sais que ça ne sera jamais terminé. Je suis condamné à subir cette violence à vie. Un soir à Malte, en vacances à l'hôtel avec mon amie Julie, un garçon parlant français, la vingtaine, me reconnaît au restaurant.
« Hein ? T'es Mila ? T'es la meuf qui fait polémique ?
Oui ?
Y a un problème ? Sale pute, va. Je vais la niquer, elle. T'es fière de ce que t'as dit ?
Oui ? Je suis très fière, même. » Et là, un torrent de menaces sort de sa bouche.
« Sale pute, va. Je vais t'étrangler sur le courant. Voilà, je vais violer ta mère. » Et je vais balancer sur Instagram le nom de l'hôtel où tu es. Ça va te retrouver et te violer dans une cave. Que je te revoie pas, sinon je te tue.
Je porte plainte le soir même, auprès de la police maltaise, en anglais. Je dois leur expliquer ce qu'est l'affaire Mila. Le lendemain, je sors de l'hôtel pour aller m'acheter à manger avec Julie.
Non, mademoiselle, vous ne sortez pas, c'est trop dangereux. Il faut remonter dans votre chambre. Vous allez préparer vos affaires. On va vous loger ailleurs.
Le soir même, le jeune homme qui m'a menacé est arrêté par la police maltaise devant l'hôtel. J'ai enfin retrouvé un peu de paix. Je sors en ville voir mes amis, je vais en soirée. Il n'y a plus que sur les réseaux sociaux que je ne suis pas tranquille. Il suffit que quelqu'un décide un beau matin de repartager ma vidéo pour que je reprenne une nouvelle vague en pleine figure.
J'ai retrouvé l'Instagram de Mila. Allez l'insulter en balle, cette grosse pute.
C'est vrai, je retourne sur les réseaux. Et on me dit que c'est de la provocation, que je jette de l'huile sur le feu. Mes proches s'inquiètent.
Faudrait que tu te protèges un peu, Mila. Que tu restes à l'abri.
Et puis, il y a les moins proches. L'éducation nationale, les médias. Ces gens-là sont pleins de bonne volonté, au point qu'ils deviennent complices.
Tais-toi. Ne les excite pas, ces gens. En fait, tu sais bien qu'ils sont dans une autre dimension. Ils peuvent te blesser et même te tuer. C'est un danger pour toi.
Mais moi, justement, j'ai envie d'échanger, de partager, de rire, d'être dans la société de mon temps. De ne pas mourir une deuxième fois. Depuis le début, ma mère passe un temps fou à guetter ce qui se dit sur moi sur Twitter. Elle y consacre toutes ses nuits. Elle accumule les preuves. Mais en face, les enquêteurs font face à une grande difficulté. D'abord, les GAFAM, les grandes entreprises d'Internet. se font énormément prier pour donner l'identité des personnes qui se cachent derrière leur pseudo. Et puis, mes plaintes sont noyées dans la masse. On ne pourra jamais attraper 50 000 personnes et les juger. Cela dit, un homme de Auch, dans le Gers, qui a écrit « On va t'égorger comme ça, Mila la pute », a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme. La justice semble avoir pris la mesure de ce qui se passe. C'est un signal. Nous sommes partis en vacances avec mes parents, à la Toussaint.
Alors, il va falloir nous communiquer votre itinéraire, vos haltes, il nous faudrait la photo de votre voiture de location, le numéro de la plaque d'immatriculation et une photo de votre tenue du jour. Entendu ?
Nous avons dû nous habituer, avec ma famille, à n'être plus jamais seul, à être suivi. C'est incroyablement difficile à vivre. Mila qui se laisse porter par le vent, c'est fini. Le métro me manque. Mon style vestimentaire me manque. On m'impose de mettre des vêtements discrets et couvrants. Je dois porter un bonnet et des lunettes de soleil pour être invisible. Je ne peux pas aller là où j'ai envie. Je ne peux plus me promener dans les rues commerçantes, il y a trop de monde. Mais je ne remercierai jamais assez ceux qui me protègent. Parce que quand je suis seul, j'ai peur. J'ai très peur. Si j'ai un rendez-vous amoureux, je dois demander à la personne son nom, son adresse, son âge, et parfois même lui demander sa carte d'identité. Et je dois faire remonter tout ça au service de protection. C'est très embarrassant, pour moi et pour les rares personnes qui veulent m'approcher. Mes amis y sont plus habitués, mais ça reste pesant. Et on ne m'invite plus aux soirées. Je suis devenu un fardeau. Ils ont peur d'être gênés par ma protection rapprochée. Mais ils ont peur surtout des malveillants qui pourraient signaler ma présence sur les réseaux. Et donc on me rejette. Mila, je vais fêter mon anniversaire. Le prends pas mal, mais je ne pense pas t'inviter parce qu'il y a des potes qui veulent ta peau. Mais t'inquiète. Je t'inviterai quand je le fêterai dans ma famille. Plus personne non plus ne veut prendre de photos avec moi. Et encore moins les publier. Ils ont peur. Très peu de personnes assument de me fréquenter. Très peu. Mes ennemis pourrissent tout ce qui me touche. Ils ne cesseront de me harceler que quand je serai morte. Maintenant, j'ai 18 ans, je prends mon indépendance sans savoir de quoi sera fait demain. J'ai tiré mon histoire du jour du livre de Mila, « Je suis le prix de votre liberté » que vous trouverez chez Grasset.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.